Deuxième partie de notre émission, si l'ouvrage qui a marqué votre vie de lecteur se titre Zadig et Voltaire, alors l'histoire qui va suivre n'est peut-être pas pour vous. Avant de recoudre le corps de l'illustre penseur, on en retirait le cœur et on emmenait le cerveau. Chacun des organes ayant suivi son petit bonhomme de chemin, on racontera bientôt où ils ont atterri. L'œuvre et la pensée de Voltaire n'ont pas eu besoin d'eux pour la postérité qu'on lui connaît. Peut-être en revanche, et telle est l'hypothèse, notre monde comme il va aurait-il besoin d'une telle pensée pour lui rafraîchir l'haleine. À partir d'une découverte génétique qui rassemble cœur et cerveau, notons que le rapprochement est en soi intéressant, une petite éclosion médiatique a lieu depuis le laboratoire du professeur Grinberg et il suffit d'une nuit pour que le cerveau de Voltaire soit volé. Le coupable menace de cloner le philosophe, correspond avec la presse et la police par des courriers signés elle et offre sa seule entrevue à un journaliste américain. Bal des prétendants, petit milieu littéraire parisien, liaison amoureuse et ou dangereuse entre les intellectuels et le pouvoir sont le décor d'une enquête policière menée par l'attachant commissaire Marcel Attias. La question est aussi, peut-être surtout, de savoir au-delà du corps ce qui reste de ceux qui ont marqué l'histoire ou notre vie par leur pensée. Vous êtes journaliste au Monde, ancien directeur des cahiers du cinéma, du Monde des livres et du Monde 2. Le cerveau de Voltaire est votre premier roman ?
Eh oui.
Eh oui, Franck Nouchi, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi.
Nous avons rendez-vous ce soir avec Voltaire. Voltaire, chapeau bas, nous lui devons tous quelque chose. Et puisque nous avons déjà son buste sous les yeux, efforçons-nous d'en faire une esquisse fidèle. Il semblerait que ce grand homme diabolique se soit proposé d'être un objet de dégoût, de haine et de mépris, et toutes les ressources de son intelligence, tous les attraits de son génie, il paraît les avoir mis en œuvre pour y parvenir. Il n'y a pas de méchanceté qu'il n'ait écrite, ou qu'il n'ait faite, ou qu'il n'ait dite. J'emploie le mot méchanceté pour parler couramment, pour avoir l'air de partager l'opinion générale. Or, ayant dit méchanceté, ayant dit le dégoût, la haine et le mépris qu'il inspirait à ceux qui le jugeaient jadis et qui le jugent encore inconsidérément, j'ai hâte d'ajouter que cette haine et ce mépris étaient bien peu de choses en regard de son mépris à lui, de son dégoût à lui et de sa haine à lui pour la sottise humaine. Cruel, sceptique, aigri, maussade et parfois sans pitié, pestant, rageant et blasphémant, tel fut ce philosophe, assez peu philosophe pour regarder la vie avec indifférence. L'homme qui n'a pas lu les contes de Voltaire ni son histoire du roi Charles XII est un Français insuffisant. Et si vous essayez de supprimer Voltaire, ne fût-ce qu'un instant, l'histoire de la France devient irracontable. Dans certains partis politiques, on aime à se prévaloir des opinions de Voltaire, mais il ne faudrait pas négliger cette phrase de lui, elle est datée de 1766. Quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. Quant à sa faculté de détester autrui, quant à son aptitude à s'en faire exécrer, j'y trouve quatre causes. Son talent d'écrivain, son merveilleux cerveau, son esprit pénétrant et sa longévité. J'attache une importance extrême au fait qu'il ait vécu 85 années, car il les a vécues jusqu'à la dernière heure. Et s'il était physiquement réduit à l'état d'un squelette, du moins conserva-t-il son esprit pénétrant, puisqu'à l'instant de son trépas, il prononça ces mots extraordinaires et jamais entendus. « Je m'arrêterais de mourir s'il me venait un bon mot ou une bonne idée. »
Ça vous laisse rêveur, dis donc, Franck Nouchi. La belle voix que Valois, c'est celle de Sacha Guitry, qui parle de Voltaire, qui débutait une série d'émissions consacrées aux philosophes. Alors vous qui fûtes médecin, mais quand on l'est une fois, on l'est pour toujours, paraît-il. Commençons par le lit de mort de Voltaire et de ce cœur et de ce cerveau, on entend 1778, qui sont emmenés. Qui les emmène et où vont-ils ?
Donc on est le 30 mai 1778, Voltaire vient de mourir et on décide de l'autopsier. On décide de l'autopsier non pas parce qu'on soupçonne qu'on ait pu l'assassiner, l'empoisonner, mais il s'agit du personnage le plus important sans doute du pays avec le roi. Et on décide d'en avoir le cœur net, si j'ose dire. Donc on l'ouvre, on se rend compte qu'il était vraiment dans un sale état et on décide de prélever à la fois son cœur et son cerveau. Alors pour son cœur, il y a beaucoup de prétendants. Finalement, c'est le marquis de Villette qui va récupérer le cœur de Voltaire. Le marquis de Villette, c'est le propriétaire de l'hôtel particulier rue de Beaune où est mort Voltaire. Et donc il récupère ce cœur. Il ne va pas le garder finalement très longtemps. Le cœur va aller ensuite à la bibliothèque impériale, qui deviendra la bibliothèque nationale. Il y est toujours d'ailleurs, rue de Richelieu. Si vous allez rue de Richelieu, là en ce moment il y a des travaux, mais lorsqu'ils sont finis, vous irez voir la statue de Voltaire par Houdon. Et dans le socle de cette statue, il y a le cœur de Voltaire. Le cerveau, ce fut une autre histoire. Donc on l'a prélevé et personne n'en voulait. Finalement, c'est le pharmacien de la rue de Beaune, où était mort Voltaire, qui décide de récupérer ce cerveau, le pharmacien Mitoire. Et tout simplement, il place le cerveau de Voltaire dans la vitrine de son officine. Et donc les passants qui passaient rue de Beaune pouvaient admirer le cerveau de Voltaire qui venait de mourir. Le pharmacien Mitoire décide de garder ce cerveau, le transmet à son fils qui, pris d'un certain remords, décide de vouloir confier ce cerveau à la République naissante. La République naissante n'en avait pas envie, visiblement. Alors on a trouvé différents prétextes. Le plus beau, je trouve, c'est l'Académie française qui va dire qu'ils ne peuvent pas récupérer le cerveau de Voltaire au motif qu'ils n'ont pas de place. Et donc ce cerveau de Voltaire va se transmettre comme ça de génération en génération dans la famille Mitoire jusqu'au jour, mais on était quand même en 1927, où la Comédie française finit par accepter de le recueillir et de le placer là encore dans le socle d'une statue de Houdon. Et donc voilà notre cœur et notre cerveau bien placé à deux extrémités de Paris, à la Comédie française et à la Bibliothèque nationale.
Et c'est déjà un régal de lire cette histoire-là, avec tous les symboles que pourraient constituer les mots que vous avez utilisés.
Absolument.
L'Académie n'ayant pas de place pour le cerveau de Voltaire est un symbole vraiment très très croustillant pour un début. En tout cas, c'est le début. C'est le début de votre histoire, c'est le point de départ de votre fiction.
Alors ça, c'est une histoire vraie.
Voilà, exactement. Voilà. C'est ici que se loge le début de cette fiction. Et la fiction arrive au moment où l'on décide d'identifier ou en tout cas d'authentifier l'ADN et de faire se rapprocher et le cœur et le cerveau.
Voilà.
Est-ce que c'est ici que vous avez commencé à écrire? Est-ce que c'est le nœud du départ de votre écriture?
Alors il faut être tout à fait complet à propos de ce pauvre Voltaire qui vient de mourir. Il va être pour la première fois, il va être inhumé du côté de Troyes, dans l'Aube. Et puis après la Révolution, en 1791, on décide de faire revenir Voltaire à Paris, mais alors là, cette fois-ci en grande pompe, et donc de transférer ses cendres au Panthéon, aux côtés de Jean-Jacques Rousseau. Et là, il y a des centaines de milliers de personnes qui acclament Voltaire sur son passage, enfin le cercueil de Voltaire sur son passage. Et donc voilà Voltaire, en quelque sorte, coupé en trois, entre trois lieux prestigieux de Paris. Moi, l'idée, comment elle m'est venue, en fait, je savais que le cœur de Voltaire était à la Bibliothèque nationale et j'avais vaguement entendu parler, comme ça, du problème du cerveau de Voltaire. Moi, j'aime bien les cerveaux. C'est peut-être ma formation de médecin qui m'incite à cela. Mais voilà, j'ai pensé au cerveau de Voltaire et en y pensant, j'ai eu l'idée, l'envie, tout simplement, de prélever de l'ADN à partir de ce cerveau et de cloner Voltaire. Alors, pourquoi cette idée m'est venue, ça j'aurais du mal à vous le dire. Ça m'est venu vraiment un jour. Moi, vous savez, il y a quelques années, j'écrivais une chronique dans Le Monde tous les jours, à la fin du journal. Et donc, tous les matins, je me mettais devant mon clavier et j'essayais, tant bien que mal, d'avoir une idée de chronique. Et ce matin-là, j'ai pas eu d'idée de chronique, mais j'ai eu cette histoire qui m'est apparue comme ça dans la tête. Et plutôt que de la garder dans un coin de mon cerveau, je l'ai tapée. J'ai créé un fichier. J'ai raconté cette histoire, ça m'a pris une heure, et puis je m'étais dit que voilà qu'elle était dans un coin de la mémoire de mon ordinateur. Et le soir même, j'ai eu envie de la reprendre, et je me suis dit, mais c'est assez rigolo comme histoire. Et donc à partir de là, voilà, je me suis écrit pour moi-même une espèce de synopsis, et l'idée de ce roman m'est venue, et j'ai décidé de l'écrire.
L'histoire est jalonnée de cette fascination pour la science, pour la médecine. On retrouve cette grande figure d'Axel Kahn, ce fabuleux généticien amoureux de la vie. Outre le fait que le clonage humain est proscrit, qu'est-ce qui serait inquiétant si Voltaire revenait dans le monde d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça lui fait tant peur à votre narrateur, à votre personnage principal?
Bon, d'abord, ça c'est tout simple, mais l'idée même d'un clonage humain, effectivement, fait peur. C'est un fantasme que de nombreux chercheurs agitent comme ça, sans cesse. On sait qu'on pourrait techniquement le faire. Donc, c'est parce qu'il y a des conventions éthiques, des règles éthiques, des principes éthiques qu'on ne le fait pas. Mais sinon, on pourrait le faire. Et c'est d'ailleurs assez étonnant que finalement, dans ce monde de fous dans lequel on vit, Il n'y ait pas un endroit dans le monde où un savant, avec l'aide peut-être des autorités du dit pays, se lance dans un programme comme celui-là. Intervalles réguliers, d'ailleurs, on entend parler d'une tentative, enfin bref. Mais ça n'a pas encore eu lieu, on l'a fait sur des animaux, on ne l'a pas fait sur des êtres humains. Dieu merci.
Il est question d'autre chose quand même là avec Voltaire.
Ah, il est question d'autre chose puisqu'il est question de faire revenir Voltaire et de se soumettre en quelque sorte à l'opinion de Voltaire, c'est-à-dire de soumettre ce qui se passe aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, le débat public auquel on assiste, au jugement, à la critique acérée de Voltaire. Et donc c'est peut-être ça qui fait peur aussi. Peut-être qu'on n'a pas envie de voir revenir un personnage aussi considérable que Voltaire nous observer et surtout nous juger. On se demande ce qu'il pourrait dire aujourd'hui s'il revenait. Et si avec Voltaire revenait un certain nombre de ses compagnons de débat public, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, etc., peut-être que là, il serait absolument effaré d'entendre, de voir ce que nous voyons, nous, tous les jours.
Est-ce qu'on n'a pas envie autant qu'on le désire? Est-ce qu'on est tiraillé par ces deux choses-là?
Sans doute, oui, sans doute. J'ai mis au début de mon livre une citation qu'on s'amusait tous les deux à relire tout à l'heure de Paul Valéry, qui a eu en fait la même idée
classe.
Que moi, ou plutôt moi, j'ai eu la même idée que Paul Valéry dans le bilan de l'intelligence. Si vous voulez, je vous la lis.
Je vous en prie.
Donc voilà ce qu'il écrivait, Paul Valéry. « Souvent, il m'amuse d'imaginer ceci. Je m'abandonne à rêver la résurrection de quelqu'un de nos grands hommes de jadis. Je m'offre à lui servir de guide. Je me promène avec lui dans Paris. Je l'entends qui me presse de questions, qui s'exclame. Et je ressens par ce moyen naïf qui m'oblige à m'étonner de ce que je vois avec étonnement tous les jours, l'immense différence que la suite des temps a créée entre la vie d'avant-hier et celle d'aujourd'hui. »
Les mots de lui qui sont méchants sont fort célèbres. Voici le plus connu de tous. Existait à l'époque un critique nommé Fréron, dont le prénom était Élie, mais que Voltaire appelait Jean, parce que Jean Fréron donnait comme initiale J.F., c'est-à-dire Jean Foutre. Or, Fréron, ayant commis l'imprudence de s'attaquer à Voltaire, celui-ci l'immortalisa, car effectivement, qui se souviendrait du critique Fréron si Voltaire n'avait écrit sur lui ses quatre vers? L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent mordit Jean Fréron. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. Regardez son sourire maintenant. Ne jurerait-on pas qu'il vient de terminer à l'instant son quatrain?
Voilà qui est cruel à souhait, toujours dans la voix de Guitry.
Magnifique.
Donc, ce rapport à la citation de Voltaire. Et tout ce petit monde des critiques littéraires, du petit milieu littéraire et penseur plutôt parisien, Plénel, Solers, BHL, Main, qui sont presque tous là, ceux qui nourrissent ou ont nourri à leur manière une certaine société du spectacle. Est-ce que une partie de ce roman-là n'est pas aussi la critique souriante, comme Voltaire, de ce petit monde que vous connaissez aussi?
Oui, c'est un petit monde que je connais bien, que j'aime bien par certains aspects et que j'ai eu envie aussi de critiquer parce que c'est ce petit monde qui tient aujourd'hui le débat public. À propos de critique, il y a une anecdote que je rappelle dans ce livre que je trouve très révélatrice. Lorsque Stendhal écrit La Chartreuse de Parme, il se trouve aucun critique.
Pendant un an.
Sans doute pour la lire et éventuellement pour la critiquer, pour l'apprécier. Et finalement, il a fallu que quelqu'un s'y colle et qu'il dise que La Chartreuse de Parme était un très très grand roman. C'était Honoré de Balzac. C'est assez rassurant comme histoire. C'est-à-dire que finalement, il est des chefs-d'œuvre qui ne resteront pas comme ça, ad vitam aeternam, ignorés de tous. Il faudra que ce soit Balzac lui-même, en dépit de tout ce qu'il avait à faire, de tout ce qu'il avait à écrire, qui trouve le temps de lire ce roman de Stendhal et qui trouve le temps pour en écrire tout le bien qu'il pensait. Moi, je trouve que c'est une histoire extrêmement réconfortante. Alors, il m'arrive de me demander si aujourd'hui, il se passerait la même chose. C'est-à-dire, est-ce que, comme ça, quelqu'un dans un coin pourrait écrire La Chartreuse de Parme d'aujourd'hui et pourrait passer au travers des mailles du filet? Déjà, je serais très content que quelqu'un écrive La Chartreuse de Parme d'aujourd'hui. De ce que je lis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de candidats Stendhal parmi nous. Mais peut-être, après tout, y en a-t-il un. J'espère en tout cas qu'il y aura le critique qui soit capable de le déceler. J'espère. Je ne suis pas sûr, mais j'espère.
Est-ce que vous diriez, comme Voltaire et comme celui qui a piqué, parce qu'il faut en revenir à cette intrigue de livre, qui a dérobé le cerveau et qui écrit des lettres à la police, à la presse, que la France s'ennuie ?
Alors, la France s'ennuie, c'est pas une expression de moi. La France s'ennuie, c'est une expression d'un de mes prédécesseurs au monde, d'un de mes grands prédécesseurs qui s'appelait Pierre Vianson-Ponté. Pierre Vianson-Ponté était un des rédacteurs en chef du Monde. C'était surtout un immense journaliste politique. Si vous allez sur Amazon et que vous trouvez encore quelques exemplaires de la lettre ouverte aux hommes politiques de Pierre Vianson-Ponté, je crois que c'est publié chez Albin Michel, il y a 40 ou 50 ans de cela, précipitez-vous et achetez-le parce que vous allez voir ce que c'est que le journalisme politique et la grande écriture en matière de journalisme politique. Et donc Pierre Vianson-Ponté, dans un article aujourd'hui très célèbre, publié dans Le Monde en mars 1968, avait titré son article « Quand la France s'ennuie ». Et donc cet article est jugé aujourd'hui extrêmement prémonitoire pour tous ceux qui étudient mai 68. Moi, dans le livre, je fais dire à mon voleur que si Pierre Vianson-Ponté a écrit « Quand la France s'ennuie », aujourd'hui, on pourrait dire « Quand la France s'emmerde ». Oui, je pense qu'on s'ennuie un petit peu aujourd'hui en France, qu'il ne se passe pas grand-chose et que le débat public en particulier est assez médiocre au fond.
Vous décrivez et vous profitez de votre expérience, longue expérience de journaliste, pour parler aussi de la façon dont s'organise l'information, le relais de l'information. Je parlais de la petite ébullition médiatique qu'il y a autour du vol de ce cerveau de Voltaire et de la façon dont à l'intérieur d'un journal qui se trouve être Le Monde, tiens, comme par hasard, on décide ou non de publier les lettres du voleur qui sont adressées de façon quasi anonyme, on décide ou non d'être en relation avec le pouvoir, on décide ou non d'être en relation avec la police. Est-ce que c'était aussi le lieu pour vous, ce roman et cette fiction, d'introduire une réflexion ou sinon des observations sur cet autre milieu que vous connaissez bien ?
Oui, j'aime bien la façon dont vous posez la question. C'est des observations plus qu'une réflexion. Je crois que j'ai d'abord voulu écrire un petit roman drôle, où l'on ne s'ennuie pas. Et puis en même temps, je me suis servi finalement de ce que je connais, de ce que j'aime aussi. Je suis journaliste et j'aime ce métier, j'aime mon journal. Donc en décrire comme ça quelques scénettes, m'a beaucoup plu. Le fait de comparer finalement les us et coutumes du journalisme français, des journalistes français, avec l'us et coutumes d'un journaliste américain qui lui va réussir finalement à rentrer en contact avec le voleur, me plaisait bien parce que peut-être de manière à la fois ironique et un petit peu caricaturale, je le conçois, j'ai voulu montrer qu'il y avait là deux cultures journalistiques qui de par leur différence, en disaient assez long finalement sur la presse et surtout l'importance accordée à la presse, l'importance accordée à la liberté de la presse des deux côtés de l'Atlantique.
Il y en a quand même un qui brandit la Constitution.
Il y en a un qui brandit la Constitution et Dieu sait qu'aux États-Unis, cette Constitution sert énormément aux journalistes. Les journalistes se réclament de la Constitution des États-Unis pour tenter autant que faire se peut, alors il faudrait nuancer énormément, tenter autant que faire se peut d'échapper aux pressions de toute nature. Alors on l'a vu dans l'histoire récente de la presse aux États-Unis que c'est parfois bien illusoire. Il n'en reste pas moins que c'est un garant tout à fait fondamental aux États-Unis.
Et vous diriez qu'ici, en tout cas vous décrivez certains, alors je ne sais pas si vous avez eu vous-même vos entrées à l'Élysée, mais vous décrivez de façon assez croquignolesque des potentiels dîners avec Nicolas Sarkozy et Carla Bruni-Sarkozy pour ne pas les nommer. À quoi servent ces scènes, outre l'aspect comique qu'elles recèlent de façon évidente, à quoi vous servent-elles ?
Oh, c'est une façon pour moi de raconter la cour finalement. Vous savez, dans les années 60, dans le Canard enchaîné, il y avait une fameuse rubrique qui s'appelait La Cour, qui était tenue par un journaliste du Canard qui s'appelait André Ribaud et un dessinateur qui s'appelait Moisan. Et donc on voyait De Gaulle avec tous les courtisans qui l'entouraient. C'est assez propre à la France, assez propre à la Ve République. Et donc moi, ne connaissant comme ça un certain nombre de petites anecdotes qui entouraient le quinquennat de Nicolas Sarkozy, je m'en suis un petit peu servi dans ce roman. J'espère que c'est un petit peu drôle. Donc ce que je raconte en particulier, c'est ce dîner au cours duquel Michel Houellebecq, qui venait d'avoir le prix Goncourt, était reçu donc à la table du président de la République à l'Élysée avec un certain nombre de copains et de copines. Et donc j'essaie de reconstituer, c'était pas très compliqué, quelques-uns des dialogues prononcés au cours de ce dîner.
Et en fait, finalement, il y a quelque chose qui tourne petit à petit autour du pouvoir et tout le monde est happé par ça, que ce soit la presse, que ce soit le policier lui-même, on y viendra. Ils deviennent comme ça, comme des abeilles tournées autour du miel. N'est-ce pas là le meilleur parallèle à faire avec le regard de Voltaire sur la société de son époque et le potentiel regard qu'il pourrait avoir si jamais cloné, il revenait chez nous au XXIe siècle?
Et oui, finalement, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire à la comédie du pouvoir et donc à l'observation de cette comédie du pouvoir. Voltaire fut sans doute, avec Saint-Simon, celui qui a le mieux observé la comédie du pouvoir. Alors lui, il a même fait plus fort puisqu'il a été également un homme de pouvoir absolument considérable, puisqu'il influençait, il conseillait la plupart des monarques qui régnait à l'époque en Europe, en Russie, en Angleterre, en Prusse, bien évidemment. En France, il faisait surtout peur. Ce que Sacha Guitry, d'ailleurs, ce qu'on a écouté tout à l'heure, oublie de dire, c'est que Voltaire faisait extraordinairement peur aux puissants. Voltaire était aimé du peuple et faisait extrêmement peur aux puissants. Et donc Voltaire, voilà, à la fois observateur de la comédie du pouvoir et acteur, très grand acteur, superstar de la comédie du pouvoir. Aujourd'hui, les acteurs de la comédie du pouvoir, on les connaît. On connaît ces intellectuels qui essayent de faire le va-et-vient entre leurs travaux, entre leurs écrits, et puis aussi la tentative de jouer un certain rôle, comme ça, jouer au pouvoir, finalement.
Non, certes, n'est pas bâtir sur du sable sa dynastie. Il y a peu de chances qu'on détrône le roi des cons. Il peut dormir ce souverain sur ses deux oreilles sereines. Il y a peu de chances qu'on chance qu'on détrône le roi des cons. Je tue il, elle, nous vous il. Tout le monde suit docile. Il y a peu de chances qu'on détrône le roi des cons.
Il se trouve que votre personnage principal écoute Brassens, si je ne me trompe pas.
Absolument.
Absolument. Ceci expliquant cela, c'était une reprise du Roi des cons par Pascal Parisot. En refermant le livre, on ressent une petite tendresse à l'égard de ce commissaire Attias, qui, sans avoir les deux pieds dans les mêmes sabots, ne parvient pas complètement à boucler l'affaire du vol du cerveau de Voltaire. De quoi est-ce qu'il est fait, ce commissaire? Parce que c'était aussi ça, ce roman, ce premier roman, c'est aussi la possibilité, le plaisir de croquer un personnage.
Au début, c'est un grand flic. C'est un grand flic, c'est une sorte d'idole comme ça du Quai des Orfèvres, un type qui a l'habitude de résoudre des affaires classiques, des affaires de crime, un flic. Un flic, et ce qui m'a intéressé dans la manière dont j'essaie d'embrosser le portrait, c'est que c'est un flic avec toutes ses complexités, pardon. C'est un flic avec toutes ses envies, ses désirs, ses fantasmes même. C'est un flic avec ses doutes et c'est un flic aussi qui se pose finalement tout un tas de questions. C'est-à-dire que voilà un flic à qui on demande de retrouver le cerveau de Voltaire. Pour un type qui a l'habitude de résoudre des affaires très compliquées, ça pourrait paraître un peu petit.
On lui demande en haut lieu, en plus.
On lui demande d'entrer au lieu. On lui demande d'entrer au lieu, donc il se met tout à sa tâche. Il va se mettre à lire du Voltaire. Il va se mettre à dévorer Voltaire. Il va même se dire qu'à l'intérieur de l'œuvre de Voltaire, il va peut-être trouver la clé de l'énigme. Et donc il va découvrir ce personnage considérable, il va découvrir cette œuvre avec à la fois une forme de naïveté, une grande curiosité, une forme de simplicité, et il va finalement en arriver pratiquement à comprendre les motivations du voleur. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire que plus l'énigme avance, plus l'histoire avance, plus il se sent proche de ce voleur. Il découvre qu'il a un certain nombre de points communs avec lui. Il découvre lui-même, Attias, qu'il a un certain nombre de faiblesses qui pourraient lui faire faire la même chose que ce voleur. Et ça me plaît, de pas prendre quelqu'un comme ça de manière entière, et puis à la fin du livre, de le retrouver exactement de la même façon. J'aime bien les personnages dans la littérature, en particulier dans la littérature policière. J'aime énormément la littérature policière ou la littérature d'espionnage. J'aime voir évoluer les personnages. Comme nous, finalement, dans la vie, je suppose que vous, il y a 10 ans, vous n'étiez pas la même, et dans 10 ans, vous serez différent.
J'ose espérer.
Eh bien, mon camarade, le commissaire Attias, que j'aimerais bien retrouver dans un prochain livre, voilà. J'aime bien le voir bouger, j'aime bien décrypter sa complexité.
Vous dites qu'il évolue, évidemment, au fil des pages, et finalement, l'intrigue, elle aussi, elle évolue. C'est comme si elle se dématérialisait. Je ne dis pas que je n'ai pas eu envie de retrouver vraiment le cerveau de Voltaire, mais je me suis dit qu'autre chose arrivait. Tous ces gens qui, finalement, se mettent à approcher l'œuvre de Voltaire, à la relire, à s'en parler, Voltaire intégrant les colonnes des journaux, Voltaire intégrant le journal télévisé de France 2, Voltaire allant jusqu'à intégrer Perdu de vue de Jean-Pierre Foucault. N'est-ce pas là, en réalité, la force d'une œuvre littéraire, la force d'une pensée qui ne tient plus, évidemment, à son existence physique, que serait un corps ou un cerveau, un cœur ou un cerveau, pardon, mais la puissance d'une pensée?
La puissance de la pensée, en tout cas la puissance de l'image de la pensée de Voltaire est là partout, quotidiennement. Vous n'avez pas idée à quel point Voltaire est quotidiennement cité dans les journaux, dans les magazines, dans les livres, dans les déclarations des hommes politiques, tout le temps en France. Voltaire revient comme une espèce de référence constante. On cite Voltaire, on cite ses œuvres sans même les avoir lues. Voltaire est devenu un adjectif, on est voltairien ou on n'est pas. Voltaire, dans les critiques de livres, revient constamment. Celui-là, c'est un petit Voltaire. Lui, c'est un Voltaire en devenir. Voltaire est constamment là parmi nous. Et c'est un des seuls, peut-être le seul personnage finalement, Sacha Guitry le disait tout à l'heure, le seul personnage historique qui soit à ce point cité constamment dans différents milieux. Alors, est-ce qu'on connaît l'œuvre de Voltaire pour autant? Je crois pas. Je crois qu'on a tous une certaine idée de Voltaire finalement. Alors, on associe son nom souvent à la liberté, à la défense de la liberté, à la défense de toutes les libertés, à la défense de la tolérance. Alors peut-être que c'est le symptôme du fait qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui, de davantage de liberté ou de davantage de défenseurs des libertés, de défenseurs intransigeants des libertés. Je dirais la même chose de la tolérance et de l'intolérance. Et c'est en ce sens finalement que Voltaire aujourd'hui nous manque d'une certaine façon.
Et finit par manquer à ce commissaire Attias qui peut-être ne soupçonnait pas que Voltaire puisse lui manquer. Tout à l'heure, vous disiez que vous appréciez beaucoup la littérature policière. Au policier, il y a de temps en temps, peut-être pas automatiquement, la femme du policier ou sinon la femme, l'amante du policier. Vous, vous avez croqué une femme du policier tellement fidèle que je l'ai trouvée suspecte. Je l'ai trouvée suspecte dans cet amour dévoué. C'était obligé qu'elle soit
amoureuse.
Comme ça.
Elle aime son Attias, elle aime son commissaire, elle aime son flic. Bon, elle rejoint là un certain nombre de femmes de flics de la littérature policière. On pourrait citer Madame Maigret, on pourrait en citer d'autres.
On pense à elle.
Bon, maintenant, on verra au fil des aventures du commissaire Attias si Isabelle Attias reste toujours fidèle à son mari. En tout cas, moi, j'aimais bien, pour cette première histoire, camper cette femme qui avait rencontré le commissaire Attias un jour dans le métro. Elle le voit accroupi par terre à la recherche de ses lunettes et c'est comme ça qu'elle tombe amoureuse de lui.
Et elle en déduit un homme honnête. C'est drôle, ça, quand même. Quelqu'un qui cherche ses lunettes, forcément un homme honnête.
Oui, c'est quelqu'un d'honnête, d'autant plus honnête qu'il va lui avouer tout de suite sa passion pour les courses de chevaux. Et donc quelqu'un qui est aussi franc, un policier qui avoue d'emblée à la femme qui vient de tomber amoureuse de lui qu'il aime de manière folle les courses de chevaux, finalement je crois que ça lui a beaucoup plu.
Cette passion qui en plus remplaçait une autre passion du poker, si voilà. Je me souviens bien.
The smart money's on Harlem, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror, and the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true, there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time. Is like a train. You can see it getting smaller as it pulls away. And the things you can't remember tell the things you can't forget. The history puts a saint in every dream. Well, she said she'd stick around until the bandages came off. But these mama's boys just don't know when to quit. Matilda asked the sailors, all those dreams or all those prayers. So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. Oh, it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time.
Voilà, Franck Nouchi, on avait le choix entre faire chanter quelqu'un qu'on aime profondément tous les deux ou entendre Tom Waits. Vous avez choisi In Extremis, Tom Waits. Avec quel titre ?
Avec Time. Je trouve que c'est une très très belle chanson. C'est une chanson, vous savez, je pense que ça vous arrive à vous aussi, que je chante souvent comme ça, le matin, le soir, dans la rue, en voiture. Tom Waits est un artiste, à mon avis, tout à fait considérable. Il y a quelques années, je l'avais vu au Rex. J'avais la chance d'être au premier rang et d'avoir Tom Waits comme ça, face à moi, chantant. J'ai rarement ressenti dans une salle de spectacle une telle émotion. C'est vraiment un artiste qui se donne totalement et qui a écrit des chansons absolument merveilleuses. J'aime beaucoup les chansons.
Mieux que Voltaire, le tête-à-tête avec Tom Waits?
Ah, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Voltaire, ça prend du temps, il en parle, du temps dans sa chanson. Voltaire, pour le découvrir, il faut passer énormément de temps à lire en particulier ses correspondances. Il faut passer des semaines et des semaines à lire du Voltaire et à comprendre quel fut le génie de cet homme. Tom Waits, et c'est vrai avec toutes les grandes chansons qui nous accompagnent pendant toute notre vie. Il suffit 2-3 minutes et puis elles rentrent dans notre cerveau et elles s'y impriment.
Et pour le rapport au temps, on va le faire d'une seule voix. On invite tout le monde à relire le bilan de l'intelligence de Paul Valéry.
Absolument.
Conférence de 1935. Je ne vous apprends rien. Les bons romans policiers se font en série. Alors est-ce que vous avez l'espoir d'un numéro 2 et 3 pour le
commissaire Ratiès ? J'ai l'envie, j'ai le désir d'un numéro 2. J'ai déjà même l'idée. Donc j'ai plus qu'à trouver le temps pour l'écrire.
Le numéro 1, en tout cas, on n'a qu'à dire, s'appelle Le cerveau de Voltaire. Il est publié chez Flammarion, c'est votre premier roman. Franck Nouchi, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous, mille fois.
Aujourd'hui, nous aurons feuilleté le journal de Tarkovsky, cherché à tout va Le cerveau de Voltaire, pris un vol...